Je pense qu'en France, on flotte au-dessus de tout un tas de creux qu'on a sous nos pieds. Peut-être un jour s'effondreront.
Voilà, le plafond, il est bas. Hein.
On va être obligé d'aller ramper, puisqu'il y a quasiment 50 cm de hauteur.
Allez, on fait parti.
Ramper avec les bras, pousser sur les pieds, et puis ce sera le plus pratique.
Bonjour à tous. On l'imagine indestructible, compact, et pour cause, l'essentiel de notre vie est bâti sur lui. C'est notre sous-sol. Mais en réalité, il ressemble à du gruyère. Il est traversé par des cavités souterraines, naturelles ou construites par l'homme. On les estime à 500 000 sur tout le territoire. Selon des associations qui alertent sur ce qui pourrait devenir un danger majeur, 7 millions de Français seraient concernés. En résumé, leur maison est construite sur du vide, au-dessus d'un trou. Cela peut être une carrière, un tunnel, des marnières, ce sont ces galeries d'où la craie était extraite, et il y a évidemment la France minière. 2500 communes concernées par les quelques 40 000 km de galeries creusées. Mais depuis l'arrêt de l'exploitation de ces mines, ces voies souterraines ne sont plus entretenues, en tout cas pas assez pour empêcher des affaissements de terrain, avec pour conséquence des maisons qui peuvent s'écrouler. Pour ce reportage, Stéphane Combe est allé dans ces endroits où le sol, littéralement, se dérobe sous nos pieds. Voici son reportage.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Il a la bonne adresse. Il y a le ragoût qui attend. Salut.
Bonjour.
Enchanté. Bonjour. On se dit-tu. Ouais.
Bonjour Gaston.
Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour Joël. Bon, bah merci de me recevoir.
C'est tout à notre honneur.
Ça nous fait plaisir.
Alors, bienvenue dans la maison qui penche.
Maison qui penche, et ça fait déjà pas mal d'années.
Ah oui, alors là, c'est vrai, là, on vient de rentrer dans le salon, et j'ai l'impression d'être un peu comme dans un bateau.
Oui, c'est vraiment ça, ça fait l'effet là. Même le matin, quand je me lève, on dit toujours, on prend l'habitude, c'est pas vrai, on prend jamais l'habitude. Combien de fois je suis rentrée carrément dans la porte, hein ?
C'est vrai, le matin, quand on se lève, on titube.
Ouais, c'est vraiment un bateau, bateau qui penche.
Là, on est à l'entrée du salon, et c'est vrai, le salon penche légèrement, plus que légèrement, de la droite vers la gauche.
Ouais, c'est ça, exactement.
Votre salon, il est en pente oui. Dans le sens de la largeur, de la droite vers la gauche.
Oui, d'un bout à l'autre, pour montrer la hauteur d'une dénivelée, c'est 45 cm. Je me mets debout sur un tabouret, il fait 45 cm.
Ah oui.
Ouais, tout est perturbé. Maintenant, pour faire la cuisine, c'est la galère. On fait cuire un steak, il y a côtelette ou n'importe quoi, il y a l'huile qui va d'un côté. On est toujours obligé de tourner la casserole, la poêle, les gâteaux, c'est pareil. Impossible de faire un gâteau droit.
Alors là, je vais poser un stylo, c'est pareil. Forcément, il termine par terre. Donc, on sait où retrouver nos stylos.
Nous sommes en Lorraine, dans le département de la Moselle, à Rosbruck. Cette ancienne ville minière a connu sa dernière remontée de charbon en 2003. Et aujourd'hui, dans cette période de l'après-mine, les habitants de Rosbruck vivent un véritable cauchemar au quotidien. Gaston et Joël Piri sont les propriétaires d'une maison qui s'apparente à la tour de Pise.
Alors ça a un impact sur notre santé. Mon épouse a souvent des maux de tête. Moi, vous me trouverez dans la maison rarement debout. Je suis pratiquement toujours assis, et sinon on est dehors.
Gaston et Joël, comment se fait-il qu'il y ait 45 cm de différence, de hauteur, d'une extrémité à l'autre de la maison ? C'est un toboggan, votre maison, là.
Tout simplement, c'est qu'il faut remonter aux années 86. Charbonnage de France a fait une exploitation minière. Une fois le charbon vidé de ses veines, on ne remblayait plus.
Des galeries d'extraction.
Voilà, et on laissait s'effondrer le tout. La conséquence, c'est que au niveau de la surface, il y a eu des affaissements. Nous habitons à Rosbruck, où le coin s'est affaissé de 15 mètres. Alors pour revenir, pourquoi on vit dans cette maison en pente ? Tout simplement parce que Charbonnage de France de l'époque estimait que en dessous d'une pente de 3%, c'était vivable. Si vous dépassiez les 3%, on vous relevait la maison. Et nous, on s'est retrouvés à à 2,9%.
On se retrouve vraiment prisonnier d'ici. Qui c'est qui voudrait acheter une maison fissurée, en forte pente et en zone rouge, par la faute de l'exploitant ? Qui c'est qui voudrait nous acheter ça ? Et on sait très bien que si on ne va pas au tribunal, on va vivre toute notre vie là-dedans. Ça devient insupportable. On souhaite réparation intégrale. On ne veut pas qu'on nous dise « on rebouche les fissures et c'est bon ». Qu'on règle les fenêtres et c'est bon, qu'on nous mette une chape et c'est bon. Non, c'est pas bon. On veut réparation intégrale et que l'État prenne leurs responsabilités.
Alors Gaston et Joël, on continue là
on... Alors on va continuer.
On peut remarquer des fissures partout, sur le papier peint. On a tout refait. La maison, elle a été refaite entièrement il y a 6 mois. Et on peut constater que les fissures reviennent.
Alors là, vous avez le phénomène de la porte.
Ah oui, la porte d'entrée, comme le salon est penché, la porte d'entrée se ferme toute seule.
Puis c'est pareil pour les meubles. On a été obligé de mettre l'armoire de ce côté-ci parce que les portes, elles s'ouvraient toutes seules.
Alors là, c'est le couloir central de votre maison qui distribue les différentes chambres, les différentes pièces.
Alors, on a condamné notre baignoire, étant donné que l'écoulement était dans le mauvais sens.
Oui, c'est surprenant parce que c'est en pente.
Oui, et ils sont décédés maintenant. Il y avait ma belle-mère qui était en chaise roulante. Il fallait qu'on la pousse jusqu'au bord près des toilettes. Elle était incapable de rouler jusqu'aux toilettes.
Oui, mais par contre, pour sortir.
Pour sortir.
Il suffisait, il n'y avait pas besoin de la pousser. Elle allait direct.
Non, ça allait tout seul. En effet, tout ce qui roule, ça va tout seul. C'est comme les chaises de bureau, ça part tout seul.
Alors j'ai amené des billes, des grosses billes pour se rendre compte de l'inclinaison de la pente. Alors, hop, vous vous mettez là-bas, Joël. Gaston, vous restez avec moi.
Et vous allez voir qu'elle va trouver la sortie.
C'est étonnant. Hein. La bille roule. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Et voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que la bille a même dépassé le couloir, elle va vers la porte de sortie de votre maison.
Interception sur France Inter.
La route, elle est en mauvais état. Hein. Bonjour, on cherche le maire adjoint.
C'est
le monsieur René.
Ouais, c'est au bout du chemin là.
D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est un 4x4 qu'il nous faudrait là.
Bonjour. Bon, ça a été quand même.
Bonjour René.
Bonjour.
Bon, dites-moi, on est. C'est de la bruine, c'est.
C'est le temps de chez nous. Oui, mais on est bien, il fait bon, il fait bon froid. On n'a pas froid.
Mais non, on n'a pas froid.
Il fait bon. Alors, je suis René Pommel, agriculteur. Sur la ferme de mes parents, agriculteur à la retraite, et j'ai cédé mon exploitation maintenant à mon fils pour la 6e génération.
Et là, on est à Écrinville, c'est ça ?
On est à Écrinville.
Dans le département de...
Dans le département de la Seine-Maritime, en plein Pays de Caux. Êtes-vous venu avec des bottes ? Parce que les Parisiens en souliers, chez nous, ça va pas.
Oui, moi j'ai amené des bottes.
Bon, on va pouvoir aller partout, là où c'est qu'on a besoin pour... voir et tout ce qu'on... Les marnières, les bétoires. Il y a des marnières, effectivement.
Ah, déjà ici même, il y en a une.
Déjà ici même, on en a une juste à 20 mètres, là, en face de nous.
Bon, on va peut-être aller la voir, cette marnière.
On va aller la voir.
Mais alors, il faut qu'on mette les bottes, là.
Là, il faut mettre les bottes, parce qu'il y a de la rosée, il y a un peu de boue. Parce que vous êtes dans une ferme typique, avec des volailles. Donc, les volailles, ça fait de la boue. Voilà. Alors, on va passer par là.
Qu'est-ce qu'on fait ? On traverse les tables ?
On traverse les tables pour aller à la marnière. J'ai pris une bêche. On va se pencher un peu dessus pour l'écouter déjà.
Attendez là, parce que René, je comprends pas très bien. On est au milieu de votre ferme.
Oui.
Et donc là, vous voyez une marnière là. Enfin, vous savez qu'il y a une marnière.
Tout à fait. Là, si vous. Voilà. Là, l'entrée, voilà, par là. Là, on a un trou, c'est un puits, exactement un puits, bien rond, qui fait 1 mètre 50 de diamètre, qui descend jusqu'à 28 mètres.
Là, juste en face de nous.
On est dessus. Nous, là, on a les pieds dans le vide là, actuellement.
Bon.
Si ça s'effondre, on descend de 28 mètres. Mais on sera tous les quatre. Donc,
On voilà. S'ennuiera pas. Bon, enfin, peut-être qu'à l'atterrissage, on ne sera pas en bon état.
Tout
mais,
à fait.
Mais alors, en bas, qu'est-ce qu'il y a là?
Alors, René, en bas, il y a eu, donc après ce puits-là, il y a eu des chambres de fête des Galaïs, quand ils trouvent de la marne, et ainsi de suite. Et ils vont dans la direction où la marne leur semble la meilleure. Il y a un rayon de 60 mètres d'impacté. Ma maison est impactée. Oui, dans le rayon des 60 mètres.
La maison, elle est quoi? Elle est à 5,
elle est à 50 et quelques mètres.
50 demain, mètres du trou.
À 50 mètres du trou. Donc demain, mon fils veut faire des travaux parce que c'est lui qui va venir habiter là. Eh bien, ça pose un problème. On ne peut pas faire les travaux qu'on veut, du côté qu'on veut. Enfin, il faut se mettre au-delà des 60 mètres. Ouais.
À 28 mètres de profondeur, il y a des galeries.
Il y a des galeries.
Qui partent un peu dans tous les sens.
Voilà. Alors, à mon avis, il y en a une qui part par là parce que là, Il y a déjà eu un peu, ça fait un peu le creux là.
Et on voit du reste, on voit qu'il y a, quand on voit votre exploitation agricole, René, on voit qu'il y a une espèce de cuvette.
Le milieu de la cour fait une cuvette, oui, tout à fait. Il y a un tensement du sol qui est sûrement dû à l'effondrement de certaines galeries.
Mais alors René, expliquez-nous pourquoi il y a un puits de 28 mètres avec des galeries au milieu d'une exploitation agricole dans le département de la Seine-Maritime.
Alors, c'était pour extraire de la marne, pour amender les champs de l'agriculteur concerné.
C'est-à-dire pour enrichir la terre.
Pour enrichir la terre, pour éviter l'acidité du sol. Tout le monde y descend pas. Hein. Alors, les personnes qui descendaient là-dedans, c'était des spécialistes, on appelait ça des marnerons. Ils travaillaient pour l'agriculteur.
Alors, on a fait des marnières de quelle époque jusqu'à quelle époque?
Quelle époque? Toutes les déclarations qu'on a en mairie, dans les archives communales, sont de 1800 à 1920-30 pour les dernières. Maintenant, aujourd'hui, la marne, on l'extrait à ciel ouvert, dans des carrières à ciel ouvert. Enfin, avant, on n'en entendait pas parler avant, mais depuis 20 ans, c'est vrai que ça devient un sujet d'actualité un peu stressant, je dirais. Parce que suite à des fortes pluies, on découvre des effondrements divers et variés.
René, là, en Seine-Maritime, il y aurait environ à peu près combien de marnières?
Alors, à notre connaissance, il y aurait 140 000 marnières connues. Il nous en manque toujours. Hein. À première vue, dans les archives, on pourra en retrouver encore de nouvelles au fil du temps. Je pense que c'est un peu le vide, comme partout en France. Avec les mines de charbon, les mines de pierre. Arras est construit sur
des carrières souterraines.
Sur des carrières souterraines. Il y a les mines de potasse. Je pense qu'en France, on flotte au-dessus de tout un tas de creux qu'on a sous nos pieds, qui peut-être un jour s'effondreront.
Claire Guéroux, je suis le maire d'Écrinville.
Bonjour.
On va se rendre à la propriété de Monsieur Batte. Bonjour. Bonjour Eric.
Bonjour Madame le maire.
Ça va?
Bonjour.
Voilà. Donc Monsieur Batte, c'est le propriétaire que malheureusement j'ai dû expulser de son domicile en février 2015. Ça fait déjà 2 ans. Donc vous pouvez voir d'ailleurs l'arrêté qui est scotché sur la porte de la propriété, interdisant l'accès à la propriété. Parce qu'il y a un arrêté, j'ai dû prendre un arrêté de péril pour interdire l'accès à la propriété et à la maison.
Donc on va rentrer. Allons-y. Là on traverse le jardin.
Mm-hmm. Je vais là, c'est sous le coin de la maison à gauche.
Là-bas.
Vous avez constaté par vous-même que c'est assez...
Donc là j'enlève la tôle qui bouche le trou, parce que pour sécuriser, il y a une tôle qui a été mise. Et vous voyez, sous la maison, il y a carrément un trou.
C'est vraiment impressionnant parce que le coin de la maison est dans le vide.
Le trou, en fait, le mur, mur de soutènement qui est sur le côté de la maison, il tient dans le vide.
Il tient dans le vide. On constate même que les briques qui sont sous le mur sont déjà tombées dans le trou. Ça fait à peu près 2 à 3 mètres de diamètre quand même.
En fait, c'est l'angle de la maison qui est dans le vide.
Voilà, tout l'angle est dans le vide, dans le trou, quoi.
On disait 1m10, 1m20 de large, et puis en profondeur, jusqu'où il va le trou là, en sous la maison?
Il y a 35 mètres. Il y a 2 ans, c'était juste un tout petit trou sous le mur. On pensait même que c'était un lapin qui aurait pu creuser. Et 2 semaines après, c'était un trou qui avait bien grandi. Alors j'avais demandé conseil à des personnes pour savoir ce que c'était. Et on m'a tout de suite conseillé d'appeler le maire pour... parce que c'était une marnière, enfin pas une marnière, mais au moins une cavité souterraine, quoi.
J'ai pas pris de risque. Moi, je ne peux pas, en étant au courant de la situation, je ne peux pas prendre de risque. Donc, tout de suite, j'ai évacué. C'est-à-dire, je leur ai demandé de prendre les quelques affaires qu'ils pouvaient pour la nuit et de tout de suite quitter le domicile et de ne plus rentrer dans la maison tant que le BRGM n'était pas passé. Le BRGM a réagi très rapidement puisque le lendemain matin, ils étaient là, ont confirmé la décision et m'ont demandé de prendre tout de suite cet arrêté de péril pour interdire l'accès à l'habitation tant qu'on ne sait pas ce qui s'y passe.
Donc vous avez évacué, Eric, la maison en combien de temps à la demande de Claire, Madame le maire?
Dès le lendemain, on était partis. Hein.
Et ils ont été relogés assez rapidement. Et c'est la mairie qui payait le loyer et on était, nous, remboursés par l'État. Par contre, ce relogement n'a plus été effectif que pendant une année, c'est tout. Donc depuis, Eric est obligé de se reloger à ses frais, tout en continuant à payer l'emprunt de sa maison.
Il n'y a pas de choses compliquées parce qu'il y avait ma copine qui était enceinte, j'allais avoir mon enfant, donc obligé de déménager comme ça d'un seul coup, c'est un petit peu dur. Ma copine a très mal vécu la grossesse, la fin de grossesse à cause de ça.
C'est très impressionnant, hein, Madame le maire. C'est très impressionnant ce que nous voyons là.
Tout à fait. On voit le coin de la maison est dans le vide.
Le coin de la maison est dans le vide, en effet. Ouais. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur s'il y a des conséquences?
Oui, bien sûr, en évitant cette pièce. On va rentrer.
On rentre dans votre maison, mais...
Alors, à l'intérieur, ici, c'est une petite maison très sympathique. Je suis un petit peu mal au cœur de ne plus pouvoir habiter ici. Ça pose des problèmes familiaux, économiques. Manon, ma copine, est obligée d'habiter ailleurs. Moi, j'habite chez ma mère, donc pour aller la voir, je suis obligé de me déplacer. Alors, entre nous, ça crée des petits conflits. J'ai l'impression que par la force des choses, au fur et à mesure, ça use les choses. Vous voyez, à Fukushima, il y a eu la centrale nucléaire qui a explosé. Les gens ont été relogés dans des containers. Et au fur et à mesure, en fait, les femmes, elles partaient parce qu'ils n'étaient jamais relogés. Ils ont appelé ça les divorces nucléaires. Là, moi, j'appellerais presque ça les divorces de la marnière. En fait, j'aurais pas eu ma marnière, tout se passerait bien. Les assurances ne prennent pas en compte les cavités souterraines.
Et aujourd'hui, le propriétaire qui a la malchance de découvrir une marnière sous sa maison et où il n'était absolument pas au courant avant, il se débrouille. Et moi, ça, je trouve ça juste inadmissible que l'État, dans le cadre d'un arrêté de péril, ne prenne pas tout simplement en charge soit le rachat de la maison, soit les frais de comblement, mais à 100%. Je ne comprends pas. Et on arrive dans une période où là, ça fait 150, 200 ans, et ça commence, le sous-sol commence à bouger, oui.
Bon, bien, merci.
Dans combien de temps vous envisagez de
la maison? Bon, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'espère avant cet été, quand même. Que je puisse retrouver ma maison avant l'été, ce serait bien.
Allez, merci, à merci vous, beaucoup, bonne, merci Eric, bon courage.
Merci Stéphane, à bientôt.
Allez, au revoir Eric, à bientôt.
Au revoir Madame le maire.
Paris et ses catacombes, Arras et les Boves, la ville de Landes-en-Laine et ses galeries. Plus de 5000 communes en France sont construites sur des carrières souterraines. D'immenses réseaux de galeries, vestiges d'anciennes carrières remontant parfois au Moyen-Âge, courent ainsi sous de tranquilles quartiers pavillonnaires. Et leur existence se rappelle aux habitants lors de spectaculaires effondrements. Pour en savoir un peu plus sur ces cavités citadines, nous allons dans le centre d'Orléans pour assister à une inspection des carrières souterraines en compagnie des géologues Gildas Nouri, du BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, et Dimet Ksimi, d'Orléans Métropole.
Alors là, on se trouve où exactement? Parce que vous nous avez donné rendez-vous en plein centre de la ville d'Orléans.
Oui, c'est ça pour le commun des mortels. J'imagine que c'est complètement inattendu de se dire que dans un environnement urbain très dense comme ça, on peut avoir aussi un monde souterrain inexploré, inconnu pour les habitants de cet immeuble. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant, effectivement.
Est-ce qu'on est correctement habillé, là, pour, à votre avis, pour aller sous terre?
Il vous faudra un casque.
Je vais vous passer une petite combinaison jetable.
Vous allez à la cave, là?
Oui, on va descendre sous terre.
Depuis le temps que je suis là, moi.
Vous habitez juste à côté?
Oh ben, j'avais été une fois, j'ai eu peur, je suis remonté à fond de train. Oh mais c'est vieux! Il y a quelque chose, il y a de l'eau, il y a tout.
On vous racontera quand on remontera.
S'il n'y a pas quelque chose de mauvais, c'est le tremblement de terre.
Allez, bonne journée.
Oh, ça m'a fait du bien de causer.
Vous avez de jolis bigoudis sur la tête.
Ben, je suis forcé, monsieur, laver la tête. Allez, allez, au boulot.
Bon, on y va? On descend?
Allez, c'est parti.
Allez, vas-y. Vous passez en premier. Il faut quand même baisser la tête. Hein.
Donc là, on va sur notre gauche, c'est ça?
Donc là, on est sur ce qu'on appelle une salle, en fait, une grande salle de carrière. C'est une carrière qui a été exploitée 18-19e siècle. Jusqu'au tout début du 20e siècle, en fait, on venait extraire de ce qu'on voit là, c'est-à-dire de la pierre, du calcaire de Beauce. Les premières pierres utilisées pour la construction qui ont été cherchées dans le sous-sol datent quasiment du 3e, 4e siècle. Elles ont servi à faire la première enceinte d'Orléans, ce qu'on appelle la première enceinte. On a beaucoup creusé, c'est pour ça que maintenant, en fait, on se retrouve avec beaucoup de galeries en centre-ville qu'il faut gérer, qu'il faut répertorier, qu'il faut surveiller.
Là, on passe là, sous cette voûte. Ah bah là, il faut se mettre à genoux. Hein.
Là, on est dans une pièce assez intéressante parce qu'en fait, on voit un des phénomènes qui peut dénaturer le toit de la cavité, le plafond, voilà.
Le plafond de la cavité.
Donc, on a vraiment des racines qui viennent dénaturer et qui créent un début de fontis. Alors, un fontis, c'est en fait un désordre qui commence par le plafond de la cavité qui remonte jusqu'en surface parce qu'il y a un décollement des différentes strates. Et là, on voit qu'on a posé une bâche ici pour surveiller justement les matériaux qui tombent.
Là, on voit quand même beaucoup de roches. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a un mouvement de terrain. Le plafond de cette carrière souterraine est en train de plus ou moins un peu de s'écrouler, là.
Quand on vient creuser sous la terre, le sol est rarement fait pour supporter des grands vides. Donc, il peut supporter des petits vides pendant longtemps, mais des grands vides, il va avoir tendance à se refermer dessus.
Donc on va continuer la visite. Là, il y a beaucoup de blocs de remblai, donc il va falloir faire attention. Et puis on a des zones, en fait, où on va être obligé d'aller ramper, puisqu'il y a quasiment 50 cm de hauteur.
Faut pas être claustro. Jean-André, t'es pas claustro?
Ben écoute, je me poserai la question après, parce que...
Ah, si, pour vraiment éviter d'être claustro.
J'y vais d'abord et je te passe...
Et
tu me passes le micro?
Ouais.
D'accord.
Allez,
on s'est parti.
Ramper avec les bras, pousser sur les pieds, et puis ce sera le plus pratique.
Là, le plafond, il est bas. Hein. Il y a quoi? Il y a 5 cm sous notre corps.
Là, si vous voyez, on change de matériau. Jusque-là, on était dans un calcaire blanchâtre, un peu couleur crème. Et là, on arrive sur quelque chose qui semble beaucoup plus doux, qui est très vert. Et en fait, on doit arriver dans une poche d'argile verte qui est vraiment problématique, en fait. Dès qu'il est mouillé, il va fluer, il va couler. Ça va enclencher un effondrement plus rapidement.
Vas-y.
Oh, non. Oh, mon pull.
Pascal Rapp, maire de Falck, depuis maintenant presque 10 ans.
On se trouve en Lorraine, en Moselle.
Oui, absolument. On est sur une commune qui est la commune de Falck, qui est une commune minière, on va dire, puisqu'on est, Falck est situé à proximité du puits de la Houffe, qui a fermé en 2004. Donc aujourd'hui on nous a porté à connaissance de problèmes auxquels on devrait être confronté, c'est la remontée de nappes phréatiques.
Parce que, en fait, on a cessé de pomper l'eau dans les galeries souterraines à 1000 mètres de profondeur.
Et aujourd'hui, donc, cette eau vient très certainement faire pression sur les nappes qui sont sous la commune. Ça veut dire quand même quelque part, si on ne tient pas compte de la pente des terrains, que bah, ici, on serait submergé d'eau.
Donc la commune de Falck, potentiellement...
Elle est potentiellement sinistrée à 75%. 75% des foyers de la commune sont susceptibles d'être inondés. En finalité, la maison n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Salut, monsieur Zimmer.
Bonjour, monsieur.
Ça va?
Oh ben, faut bien, hein.
Ouais. C'est vrai qu'on a les pieds dans l'eau, ici.
Remontée d'eau?
Oui. Hein,
combien d'années? Combien d'années qu'il faut pour que ça apparaisse?
Oui, donc le fameux scénario qui nous a été communiqué, c'est celui qui porte sur une remontée de nappe phréatique pour l'année 2056, aux environs de 2056.
C'est-à-dire que l'État ne vous empêche de vous développer et dit que la commune est inondable à 75%, mais à l'horizon de 2056.
À l'horizon de 2056. Mais d'autres scénarios ont été étudiés, c'est 2300, 2500 et 3000.
En fin de compte, vous vivez dans le futur de votre commune est sérieux.
C'est un gros point d'interrogation. Alors bien entendu, on a des collines, on va peut-être devoir construire sur les collines, mais aujourd'hui l'urbanisme ne nous le permet pas. Donc on ne sait plus quoi faire.
C'est dans le nord de la Lorraine qu'on a extrait du minerai de fer et du charbon de manière massive jusqu'au début des années 2000. La commune d'Aubouet en Meurthe-et-Moselle se situe au-dessus d'une ancienne exploitation minière de fer. Elle reste encore marquée par un effondrement qui s'est produit il y a 22 ans. Olivier Tritz est à la tête du collectif minier, une association qui défend les victimes des dégâts de l'après-mine.
C'est sûr que là, aujourd'hui, quand on voit cet espace-là, qui est vierge de toute construction, on a du mal à s'imaginer qu'il y a 40 ans, 50 ans en arrière, c'était des cités.
C'est des cités, des minières, cités, là, minières. Complètement, oui.
Avec plein de familles, plein d'enfants, ça courait partout.
Monsieur Vavasseur, votre maison, elle était où?
Où il y a le garage.
Et la vôtre, ça a été décidé de la raser.
Nous, c'était rasé. Vous aviez 15 logements de ce côté-ci et 15 de l'autre côté de la route.
Nouvelle catastrophe à Aubouet, 5 semaines après le premier affaissement minier dans le quartier de Coinville. Le sol a encore bougé, cette fois dans la rue de Metz. 80 familles ont dû être évacuées dans la nuit de lundi à mardi. La situation est encore pire qu'à Coinville. Cette fois, les maisons menacent carrément de s'effondrer.
Le 16 novembre 1996, à 7h du matin, je me lève, je sens une porte de la cuisine qui raccroche. C'est la mine. 14h, ça empire. Péril imminent. Et tout le monde dehors. Une heure après, vroom, ça commençait à s'écrouler.
Ah oui.
Là, flagrant, on était vivants. Vivant, on a
effondrement brutal.
Brutal.
Une véritable catastrophe. Les habitants de la rue de Metz, de retour sur les lieux ce matin, n'en finissent pas de regarder leur maison très largement fissurée. Certains tentent de récupérer quelques vêtements, mais ils sont vite arrêtés. Rester à l'intérieur où les plafonds menacent de s'écrouler est beaucoup trop dangereux.
Tout le quartier, ils vont le raser, hein, y a pas de secret, puisque toutes les maisons tiennent une par rapport à l'autre. Et la mienne, je pense que celle de mes parents, c'est celle qui a pris le plus gros choc. Et puis tous les autres, ils soutiennent, c'est tout ce qu'elles font. Mais bon, vous pouvez pas en démolir une sans que les autres ne tiennent, quoi. Hein. Et puis si vous allez à l'arrière de la maison, c'est encore pire. Hein. C'est vraiment dur. Hein.
C'est la catastrophe. Pour moi, les cités sont perdues. C'est perdu.
La journée que M. Vavasseur a racontée, de 7h du matin jusqu'à dans l'après-midi, eh bien, ils ont été effectivement plusieurs dizaines de foyers à subir la même journée. Le matin, on se réveille. Le soir, on ne se couche pas dans la même maison.
Trottoirs et chaussées soulevées, cheminées tordues, murs lézardés, sur place les symptômes et la cause, l'exploitation minière, sont les mêmes qu'à Coinville il y a un mois.
Dans le cas de Coinville, l'exploitation était réalisée sur une seule couche. Dans le cas de la rue de Metz, l'exploitation était réalisée sur deux couches, donc il y a deux fois de plus de vide. Et donc, très logiquement, on devrait avoir une cuvette d'une profondeur à peu près du double de celle que l'on observait à Coinville.
La dernière mine qui a été exploitée en Meurthe-et-Moselle, c'était Méry-Mainville. Elle a fermé en 92. Ce qui a été décidé par les autorités, c'est de pouvoir arrêter de pomper l'eau qui se trouvait dans la mine et donc de procéder à l'ennoyage, c'est-à-dire de mettre de l'eau, de laisser l'eau monter pour remplir toutes les galeries. Ce qui est particulier, en tout cas ce qu'on est, on a constaté à l'époque de l'effondrement, quelques mois après. On s'est dit, effondrement à Aubouet, une fois cité de Coinville, une deuxième fois un mois après à rue de Metz, en 1997, quelques mois, 6 mois plus tard, à Moutier, donc une commune juste à côté. Eh bien, on a fait ce rapprochement-là entre l'ennoyage et les effondrements. Plusieurs années plus tard, il a été acté que l'ennoyage était un facteur aggravant dans les effondrements miniers. Loris Ravasio, vous, vous avez travaillé en tant que mineur hein, dans les mines de fer.
Oui. Une paire d'années, oui. Donc on a vu un peu la surexploitation, ces fameux piliers qui étaient laissés pour soutenir, on va dire, le dessus, hein, qui était plus petit que prévu. Quand l'eau est arrivée là-dedans, bah, ça a déclenché une catastrophe.
La question de l'après-mine n'a pas été appréhendée par l'ensemble des exploitants, que ce soit du côté des services de l'État ou du côté des exploitants eux-mêmes. Un exemple caractéristique, c'était la cartographie. Les sous-sols étaient exploités, les cartes étaient rarement mises à jour. Et en fait, c'est ces cartes-là qui ont subsisté, qui sont devenues la référence. Donc il y avait un problème entre l'exploitation, qui, elle, profitait eh bien, du matériau exploité, sorti des mines.
Le fer ou le charbon.
Le fer ou le charbon, peu importe la matière, et la connaissance réelle de par les élus, de par les habitants. Et au final, on se retrouvait des habitants qui achetaient des maisons sans pour autant connaître que sous leur maison, il y avait une galerie. Voilà ce qui existait il y a encore 20 ans, 30 ans en arrière. Le code minier, c'est le plus ancien des codes qui existent. Et tant que le code minier ne sera pas adapté à l'après-mine, il va privilégier l'exploitant, eh bien les habitants auront toujours au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas pris en compte. Donc on voit bien que ce qui est arrivé il y a 30 ans, donc sur le bassin ferrifère, eh bien, ça arrive sur le bassin salifère, c'est arrivé sur le bassin houillé, où on découvre des maisons qui sont vraiment en pente. Et ce n'est pas lié uniquement au fait que la maison soit située en haut d'une côte. C'est parce qu'il y a eu effectivement ces effondrements.
Interception. Le magazine de reportage de France Inter.
Bonjour, Nicolas Queberlé du BRGM.
Bonjour.
Bonjour, Daniel Fur du BRGM.
Là, on est en plein milieu de Hayange. Hein. Vous m'avez donné rendez-vous. On vous a donné rendez-vous devant l'entrée de la mine qu'on va surveiller aujourd'hui. Cette mine de fer, en fait, est dans le centre-ville d'Hayange, parce qu'en plus, on est rue de la mine. Tout à fait, rue de la mine. Au centre d'Hayange, et c'est ce qui justifie d'ailleurs les surveillances qu'on exerce. Donc on va passer par ce petit escalier. Alors on a regardé dans nos archives, les travaux qu'on va visiter datent d'il y a environ une centaine d'années, début du XXe siècle. Et il y a des maisons au-dessus, hein. C'est ça qui est étonnant. Parce que...
Ah oui, il y a des maisons au-dessus, il y a des maisons en face, à côté, juste à proximité, on a une école maternelle.
On va pas descendre, hein. Il n'y a pas d'escalier. Là, on est en fait à flanc de coteau. Hein.
Ouais. À flanc de coteau, tout à fait. Oui. Donc, avant de commencer, on va faire un petit checklist, voir si tout le monde a son bon matériel, le casque, les lampes en bon état, ça fonctionne. Les bottes et détecteurs de gaz.
Donc c'est un détecteur multigaz, hein. O2, CO, CO2, H2S. Moi je garde un détecteur sur moi, Nicolas en garde un sur lui.
C'est pour s'assurer qu'on ne rencontre pas d'atmosphère viciée. C'est une mine où on n'en rencontre jamais, mais ça fait partie de nos consignes de sécurité.
Je vais mettre un plan.
Donc ça c'est le plan de la mine. Hein. Tout à fait, c'est le plan de la mine et du secteur qu'on va contrôler.
Donc on voit des petits carrés, ce sont les maisons qui sont au-dessus de la mine.
Voilà, ce sont les maisons qui sont au-dessus, et celles qui figurent ici en jaune, ce sont celles qui sont à l'aplomb de certaines galeries. Et donc ce sont les endroits qu'on va contrôler.
On va ouvrir la porte de la galerie. Là, il y a la deuxième zone.
Alors là, lorsqu'on regarde le plafond, c'est même assez joli. Il y a plein de petites stalactites. Hein.
C'est très beau.
Des petites stalactites de calcite blanche. Déjà, c'est l'indice qu'il y a circulation d'eau dans ce secteur. Mais pour l'œil du géologue, c'est aussi l'indice que cette zone est stable et ne bouge pas. Parce que si les blocs se mettaient à tomber, les stalactites n'auraient pas le temps de pousser. Donc là, ça montre bien que c'est un secteur qui ne bouge pas.
En nombre de mines, il y a 16 communes qui sont impactées par les risques fontis dans tout le bassin ferrifère lorrain. Il y a 16 communes, il y a 21 concessions. Et sur les 21 concessions, il y a 70 zones qu'on surveille.
Et en nombre de kilomètres de galeries ?
Au total, dans tout le bassin ferrifère, quand on parle de tout le bassin ferrifère, ça part de Longwy jusqu'à Nancy. Il faut imaginer ça sur plusieurs niveaux, sur plusieurs couches. Il y a à peu près 40 000 km de galeries. Donc une fois le tour de la Terre. Ah, Jérôme, on est à la première bifurcation. On va laisser le Généphone ici. Ils ont foutu le câble en l'air. Et on va continuer notre surveillance. On a encore pour bien 20 minutes le temps de revenir. Et après, on rentre encore dans la zone R156QD2.
Voilà, donc ça ne nous empêche pas de faire notre surveillance. Hein. La sentinelle est prévenue du secteur où on va et puis on lui donne la durée de visite.
Donc là, vous faites une photo parce qu'au-dessus, il y a une maison.
Voilà, tout à fait.
Alors, le risque, c'est quoi, Nicolas ? C'est un effondrement de la roche
Non. Alors, le risque, c'est ce qu'on appelle un fontis. Donc, le fontis, c'est une dégradation du toit de la galerie.
Le plafond.
Du plafond, voilà, qui au fil du temps pourrait remonter jusqu'en surface. C'est une zone qui n'a pas évolué. Donc, et on le voit, hein, la roche dans ce secteur-là, elle est massive, elle est stable.
Alors sur les 40 000 km de galeries de mines de fer, est-ce que toutes les mines sont plutôt en bon état ou...
Ces mines, à l'heure actuelle, il y a des secteurs où des travaux ont été entrepris à la demande de l'État. Et puis aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces 40 000 km dont on parle, certes, il y a des zones urbaines, mais l'essentiel se situe sous des forêts ou sous des champs. Donc les zones qui sont surveillées sont les zones justement où vivent les gens. C'est réalisé régulièrement et puis des travaux peuvent être entrepris si nécessaire.
On va continuer ?
On continue, oui. Il pleut là.
Hein. Bah là, c'est un endroit où il y a une zone d'eau. On vient de passer une section de galerie où il y a une venue d'eau.
Est-ce que lorsque vous observez la galerie en tant que géologue, déjà au coup d'œil, vous arrivez à saisir s'il y a des modifications, si la roche travaille, si...
Alors la modification la plus simple à constater dans ce contexte, c'est de voir s'il y a des blocs par terre. Des nouveaux blocs frais. Hein. Là, en l'occurrence, on voit que dans cette section de galerie, on est dans des boues relativement anciennes. On voit encore nos traces de pas de l'an dernier. Donc ce sont des secteurs qui n'évoluent pas. Par contre, tout vide n'est pas instable. Hein. On a Paris est complètement au-dessus de vide. On a des tunnels, on a des métros. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les mineurs n'étaient pas fous. Hein. Ils n'allaient pas creuser des galeries qui n'allaient pas être stables pour leur propre sécurité.
D'après le Bureau de recherche géologique et minière, d'après l'administration, la plupart des mines de fer qui se trouvent en Lorraine et qui ne sont pas ennoyées, qui ne sont pas envahies par les eaux, seraient plutôt en bon état. J'ai décidé d'aller visiter une de ces mines de fer avec un groupe de spéléologues qui sont membres du club de spéléologie du Longwy. On va parcourir environ 1 km de galeries souterraines pour aller vérifier s'il n'y a pas des éboulements majeurs.
On peut constater un effondrement où les rails hein, qui maintenaient un peu le plafond là, ça s'est complètement effondré. Et là les gros blocs de plusieurs tonnes. Là
on voit les soutènements en acier. Donc vu que c'est plus entretenu, ça rouille. Donc là encore ça va, ils ont l'air en bon état. Par contre il y en a où il y a beaucoup de poids, donc ça se calcule en tonnes. Il y a toute la pression du plafond qui repose dessus. Il y en a certains qui cintrent et qui cassent.
Au-dessus, au plafond, on voit des grandes barres en fer, un peu comme des...
C'est des rails.
Des rails.
Voilà. Ils utilisaient des rails pour soutenir le plafond.
Ouais, en 50 ans, il y a une succession d'éboulements et pas des petits blocs. Hein. Là, on est face à quand même des morceaux qui font chacun d'entre eux plusieurs tonnes. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et au milieu de la galerie principale. C'est même pas sur les galeries qui sont...
Ouais, c'est ça. C'est même pas. On va dire que c'est la galerie qui était la plus renforcée.
Alors là, il faut qu'on enjambe cet éboulement.
Donc
là.
Voilà, donc pour continuer, on va devoir enjamber l'éboulement.
On va aller sur la ouais, gauche, c'est... Hein. C'est la gauche qui semble être le passage le plus...
En touchant pas trop les rails.
Les rails, ils sont extrêmement fragiles, hein, j'ai l'impression.
Ah bah tu suis là où je t'éclaire là, tu essayes de suivre mon passage là. Oh, un petit peu attention à la tête là, toujours des grosses poutrelles là de 25 d'épaisseur là. Toujours avec des énormes blocs par-dessus là. On va dominer là, on va être dessus là. Là on est au cœur de l'effondrement là.
Donc il n'y a plus qu'à espérer que le plafond tienne encore.
Ça, j'aimerais bien qu'on avance un peu parce que si on regarde derrière nous là, on a pas mal de pierres qui sont en attente de tomber. Donc là, on voit que la galerie, elle a pris le double de hauteur.
Aurélien, tu sais, la
double hauteur, dans quelle direction on se dirige là? Vers l'intérieur du massif ou...
En fait, on le longe là.
On va sur la gauche là?
Là, si vous voulez visiter, donc ça, c'est une ancienne gare.
Une gare? On a l'impression vraiment d'être dans une
gare de triage. Hein.
Dans une petite gare de triage avec des poteaux au milieu et puis il voilà. Y a des aiguillages avec les rails qui sont plutôt en bon état. Hein.
Et on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 voies là, de triage. Là.
En fait, tous les 50 ou 100 mètres, hein, dans cette galerie principale de cette mine de fer, il y a quand même un sacré éboulement. Hein.
En l'occurrence, ici, c'est pas trop trop grave, parce qu'on va dire qu'au-dessus, il y a la forêt. Mais bon, il y en a certaines où il y a des éboulements un peu plus gros et où il y a la ville au-dessus, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'État peut faire contre ça? Parce qu'ici, à part combler les vides, donc ça veut dire que là, on a peut-être fait un kilomètre. Sur les 1 km, comment vous allez combler les vides de la galerie jusqu'au plafond, quoi? Imaginez sur la Lorraine, le nombre de mines. C'est un travail infaisable. Hein. Donc là, on a une voie qui n'a pas été dégagée. D'accord. Donc,
On voit encore les rails. Hein.
Voilà, on voit encore les rails et les wagons. Et l'éboulement qu'on vient d'emprunter, eh ben, si on regarde en dessous, on a un wagon qui est complètement écrabouillé. Quoi.
C'est le petit wagon.
Là, c'est vraiment. Bah, c'est
le wagon de mineur. Hein.
C'est pour ça qu'on vient là. C'est pour photographier ça. Quoi. C'est les derniers vestiges qui nous restent sous la main et qu'on peut contempler.
Moi, j'ai trouvé le travail des hommes aussi. Ah, là, c'est impressionnant ce qu'ils ont pu passer, le temps passé là sous terre à exploiter, à ressortir le minerai, à pousser les wagons, à passer des journées entières là, ça devait être quelque chose de fort quoi, hein, comme émotion, comme travail, comme.
Ce qui est incroyable, c'est que là en face de nous, on a un petit wagon, hein, il reste les 4 roues, ce qui est dessus est pourri, détruit. Voilà,
il reste le châssis, mais bois, il peut.
Il roule encore, hein, les petits wagons.
Je suis donc Antoine Bach, je suis le responsable de cette association qui gère ce musée. Ce musée des mines de Neufchef.
On se trouve dans une ancienne mine.
C'est la vraie, l'ancienne mine, remise en sécurité. Et là, on va même montrer aux visiteurs comment le mineur... Parce que le principal danger, c'est les chutes de blocs, des effondrements de terrain. Donc, on dit aux mineurs, attention, avant de démarrer ton travail, contrôle le plafond. Parce que c'est le plafond qui provoque des accidents. Avant la guerre de 40, un tué par semaine dans les mines de fer de Lorraine. Et le mineur, lui, il prend une baramine. Vous voyez, cette baramine, à quoi va-t-elle servir? Eh bien, on cogne au plafond et on écoute le son. Alors, vous qui n'êtes pas mineur, comment il est le plafond, là? Il est bon ou il n'est pas bon?
Ça me semble.
Oui.
En tout cas, c'est toujours le même son. Ça me semble plutôt bon.
Eh bien, il est bon.
Ah oui, là, le son est différent, ça résonne plus.
Ça résonne plus et ça sonne le creux. Ça veut dire que le plafond est dangereux. Donc, on appelle ça le sondage. La roche est solide, mais il faut bien se dire une chose. C'est que quand on est dans une mine, la mine a été creusée par l'homme. Et automatiquement, la nature a horreur du vide. Ça veut dire qu'une galerie que vous laissez à l'abandon, elle va s'éplucher. La roche, c'est notre gagne-pain. Il faut la respecter, ça c'est vrai. Si vous voulez, maintenant, elle est enfermée. Elle est enfermée, la roche. Elle somnole, elle est là, elle peut se réveiller. Je pense que...
Donc il ne faut pas l'oublier.
Ah ben, il ne faut pas oublier surtout la richesse qu'elle a amenée chez nous. Et ce fameux minerai de fer, ça a été la richesse de notre région. On a quand même exploité 3,5 milliards de tonnes de minerai. On a creusé 45 000 kilomètres de galeries en Lorraine. Alors comment voulez-vous qu'à un moment donné, il n'y ait pas quelque chose qui lâche à gauche ou à droite ?
Cauchemar en sous-sol, c'était un reportage de Stéphane Combe avec une prise de son en deux temps, la partie en plein air assurée par Sandrine Malon et la version souterraine avec Jean-André Giannichini. Mixage, Jean-Philippe Jeanne. La réalisation est signée Michel Soulier, assisté d'Alexia Lacour. À dimanche prochain.